Alors là, il veut que je raconte la soupe aux fèves. Je ne vais pas raconter la soupe aux fèves, je vais raconter la soupe. Parce que la soupe, ce n'est pas une recette, c'est un procédé général, c'est un truc. La soupe, c'était toujours... D'abord, c'est la cuisine des femmes, la soupe. Et c'est la meilleure cuisine de toutes. C'est bien connu. Les femmes font mieux la cuisine que les hommes, mais les hommes se font mieux connaître que les bonnes femmes. C'est tout. Il semblerait que ça réagisse un peu par là. Je vais m'expliquer quand même un peu, si vous voulez. Maintenant, hein. Alors, on peut dire que les femmes font beaucoup mieux un nombre plus petit de recettes que les hommes. Les femmes font bien mieux le peu de recettes qu'elles connaissent que les hommes. Elles n'ont pas à la cuisine l'esprit aventureux. Elles ne l'ont pas encore, ça viendra. Et elles ne l'ont pas pourquoi? C'est facile à comprendre, parce qu'elles font la cuisine pour qui? Pour leur mari, pour leur père, pour leur frère, pour leur fils, qui veulent toujours manger les trucs de leur goût. Donc vous avez été dressé depuis 50 ou 80 générations à faire toujours les mêmes recettes, ou à peu près. Vous avez un répertoire. Quand une femme sait faire 25 recettes, c'est une cuisinière de talent. Quand elle en sait en faire 100, il n'y en a pas deux à 200 km à la ronde. Et les cuisiniers, eux, ben, ils en ont 500, 600, et ils les font peut-être pas aussi bien, mais comme ils font à manger pour un plus grand nombre de gens, quand ils réussissent un truc, il y a davantage de gens qui le disent que quand c'est une femme qui fait à manger pour son mari ou pour son fils, qui dit c'est tout naturel, c'est bon, mais c'est fini. C'est quand c'est pas bon qu'ils gueulent. Et quand c'est bon, ils disent rien. Alors, la cuisine des femmes, revenons-y. La cuisine des femmes, c'est la marmite. Lévi-Strauss a écrit des trucs définitifs à ce sujet. Les femmes font cuire dans un récipient et par l'intermédiaire d'un liquide, exactement comme le font les enfants. Oui, oui, c'est l'endocuisine. Mais je vous assure que pour arriver à cette conclusion, il faut 15 pages et il faut quelques jours pour en venir à vous. Parce que le Lévi-Strauss, ça ne se lit pas tout seul. Hein. Ça peut se lire le soir, on s'endort bien. Mais c'est comme ça, c'est son idée. Alors, la cuisine, c'est l'affaire des femmes. Mais alors, la soupe, n'en parlons pas. Et tout ce qui cuit dans un récipient, regardez-le, observez-le, la soupe, la blanquette, la daube, tout ça, c'est les femmes qui le font bien. Les rôtis, les grillés, les grands trucs, c'est les hommes. Et alors il explique aussi que les hommes, eux, ils font cuire directement à la braise. Par exemple, quand un homme fait la cuisine, il invite les voisins, on fait un grand feu, et pam, on fout une broche en travers d'un mouton, et on le fait cuire. Il faut repeindre la cuisine après, il faut 3 mois de travaux pour arriver à réparer les dégâts. Enfin, il a fait sa grande cuisine, et il s'est servi de quoi? D'une broche. Alors, il paraît que ça rouille exactement comme le reste. Et la soupe, c'est l'affaire des femmes, donc. Et dans la cuisine à la campagne, il y avait toujours un pot en terre avec quelque chose. Il faut se souvenir que avoir de l'eau chaude, c'était pas du tout cuit à une époque. Il fallait toujours que la femme ait un pot à côté du feu où l'eau soit chaude. Autrement, il fallait 2 heures pour faire bouillir de l'eau sur un feu de bois. Donc, c'était facile, c'était très long, mais comme la femme était là tout le temps, elle faisait sa soupe. Et toute l'année, il y avait une soupe qui marchait, et comme il n'y avait pas de congélateur, ni de frigo, ni même de transport, il y avait la soupe qui était parfaitement de saison. On y mettait les choux quand il avait commencé à geler, c'est-à-dire que quand les choux avaient un peu gelé, ils étaient comme blanchis, ils étaient moins acides, ils étaient bien meilleurs. Puis petit à petit, quand arrivaient les premiers primeurs, on y mettait des petits légumes. Et puis petit à petit, quand arrivaient les fèves, on faisait la soupe aux fèves. Et puis après, on faisait la soupe aux haricots nouveaux. Et puis ça recommençait. C'était les soupes tout autour de l'année. Et en même temps qu'il y avait ça qui marchait là, sur le coin du feu, quand les hommes revenaient des champs, pas, on y laissait tomber peut-être une cuisse de canard ou d'oie confite, on y mettait un bout de lard, et ça faisait des soupes extraordinaires dont les goûts étaient stratifiés un peu comme une table laquée, c'est-à-dire qu'il y avait le goût du fond de légumes et de choux, par exemple, le goût de graisse d'oie, puis après le goût de nouvelle graisse et de chair d'oie avec le confit. Et puis alors quelquefois, c'était le grand luxe, en même temps qu'une perversion du goût aussi. C'est très curieux parce que le goût se pervertit un peu comme certaines autres choses. C'est-à-dire que quand on y mettait un os de jambon, c'était pour ne pas le perdre, cet os de jambon. Et quand on l'y foutait, il était tendre souvent. Hein. Le sel était sorti et puis il était un peu rance, mais on s'est habitué à ce goût de rance. Et vous tous, vous êtes d'accord pour manger la saucisse sèche quand elle est presque rance. Ça, en principe, on ne devrait pas, mais on s'y est fait. C'est bon. Alors voilà, la soupe aux fèves, comme il disait, c'est devenu un luxe, parce que ces soupes, elles ont perdu leur côté utilitaire, elles ont gagné un côté luxueux, parce que plus personne ne fait de soupe, Mais il faut bien dire aussi que quand on a une soupe aux fèves qui est bien partie avec les oignons bien revenus à la graisse, enfin tout ce qu'il faut, et qu'en plus on y fait cuire l'omelette de la soupe dedans, ça donne un goût extraordinaire. Et quand on l'assaisonne à la fin de la cuisson, pas au début. Oui, on fait une espèce de grosse omelette qui ressemble un peu au farci dont Meunier parlait, mais qui est un peu plus fort en œuf pour qu'on puisse la tourner sans que ça fasse trop de difficultés. Et ça, c'est les longues cuissons. C'est une omelette qui cuit 2 heures. Elle cuit un quart d'heure là dans la poêle, et puis après elle cuit 1 heure 3 quarts dans la soupe, et elle parfume cette soupe. Et alors, on a trouvé aussi que cette omelette dans la soupe, c'était très ingénieux, parce que ça agit aussi un peu comme une clarification de consommé. Vous savez que les cuisiniers que nous sommes, par rapport à vous, nous on fait des consommés qu'on clarifie, qu'ils soient bien clairs. Vous faites du bouillon de poule, il est souvent aussi bon, et puis c'est une différence de conception. Mais cette espèce de farci qui est dans la soupe là, il agit pareil, les albumines de l'œuf que vous avez mis dedans ramassent un peu toutes les impuretés qui circulent dans le bouillon, et ça clarifie dans une certaine mesure la soupe. Vous avez donc les morceaux, Et puis les fèves non épluchées, bien entendu, il faut des petites fèves comme l'ongle du petit doigt pour que leur enveloppe soit assez perméable pour que le goût passe à travers, mais qu'elle éclate pas, parce qu'une soupe aux fèves épluchées, ça fait une soupe opaque. L'idéal, c'est d'avoir un bouillon le plus clair possible, le plus fort en goût, avec les fèves, avec les morceaux, avec le farci, avec tout ça. Évidemment. Ah non, parce que... Ah non, vous avez prendre le poêle. Hein. Vous faites un farci de poule, vous y mettez 2 fois plus d'œufs, vous le mélangez bien, et vous le posez dans une poêle où il y a de la graisse noire en train de grésiller. Au bout d'un moment, elle va se prendre, vous la mettez sur le coin du feu, vous la tournez, ça c'est un peu difficile à tourner, avec un couvercle, vous débrouillez, et je vous assure qu'après vous la faites glisser dans la marmite, une marmite qui soit à sa taille. 1 heure après, elle va tenir, hein. Elle va tenir, oui. Et si elle ne tient pas, c'est qu'il n'y a pas assez de jaune. Hein. Non, j'ai dit que la soupe était devenue un luxe.
Ah oui, mais parce que elle était le platanage des pauvres, maintenant tout le monde mange la soupe.
Oui.
Alors c'était les pauvres qui mangent la soupe, les riches n'en mangeaient pas.
Oui. Et comme c'est les riches qui la mangent, c'est-à-dire que maintenant il faut venir que tout le monde est riche au sens de la nourriture. Donc tout le monde peut se taper une soupe aux fèves, avec dedans une demi-cuisse de canard confite, un petit morceau de jarret de porc confit, un bon farci. Il ne faut pas oublier qu'il y a 100 ans, on mangeait la soupe aux fèves tel que, avec un bout de lard et l'os du jambon, et un bout de pain. Et on y mettait ou le confit, ou le jarret, ou le reste, mais jamais les trois à la fois. Alors bien sûr, c'est devenu plus qu'un potage. Chez nous, je suis sûr que chez eux c'est comme ça aussi, on chiffre les soupes un prix suffisant pour que les gens mangent ça, et puis un dessert. Parce que si on veut la servir vraiment comme il faut, on ne peut plus rien bouffer après, c'est pas possible. Hein.